Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Emmanuel Macron, donc, qui s'exprimait aujourd'hui dans le Pas-de-Calais à Arras. Bonsoir à tous. Ça se disputait. Une actualité particulièrement lourde ce soir avec face à face en direct. Philippe Guibert, bonsoir. Philippe
bonsoir Guibert, Lionel.
Et Alexandre Devecchio, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour évoquer notamment l'effroi, l'horreur ce matin dans un lycée d'Arras. Une attaque au couteau qui a fait un mort et deux blessés, un enseignant décédé, donc deux personnes gravement touchées. Et l'assaillant, un russe d'origine tchétchène, fiché S, a été arrêté. Retour sur les faits avec Adrien Spiteri et Juliette Sada.
Non, la vérité, non, la vérité.
Ça se bat, il y a une chaise, ils ont des couteaux.
De longues minutes d'horreur, filmées par un élève depuis sa salle de classe.
Au nom de Dieu, il y a un couteau.
Ils ont fait évacuer tout le monde.
Armé de couteaux, un homme a pénétré dans la cour du lycée Gambetta. Des membres de l'établissement tentent de l'arrêter, notamment à l'aide d'une chaise, en vain. Un homme est poignardé à plusieurs reprises par l'assaillant, qui crie selon les témoins « Allah Akbar ». Présent sur place, ce professeur de philosophie a voulu s'interposer.
L'agresseur s'est quand même retourné vers moi, voyant que je m'étais avancé, que je commençais à lui parler, et m'a dit « Vous êtes professeur d'histoire ». J'ai été effectivement poursuivi pendant quelques minutes. Quelques instants, je me suis réfugié derrière la porte vitrée de l'établissement.
Quelques minutes plus tôt, deux enseignants ont été agressés. L'un d'entre eux est décédé. Dans l'établissement, c'est la panique. Les élèves se confinent avec le personnel du lycée. Des minutes interminables. Cette lycéenne est encore marquée par le drame.
Dans la classe, au début, on pensait que c'était une blague, mais au final, après, on a tous commencé à paniquer. Et on a su direct que c'était pas un exercice.
L'agresseur de 20 ans d'origine tchétchène, ancien élève du lycée Gambetta et fiché S, a été arrêté, tout comme son frère de 17 ans, à proximité d'un autre établissement. Ce vendredi soir, ce sont 8 personnes au total qui sont placées en garde à vue. Plusieurs membres de la famille de l'assaillant ont été interpellés pour les besoins de l'enquête, selon la police, dont l'un de ses frères ainsi que sa sœur.
Voilà, et j'ajoute que dans cette attaque d'Arras, 8 personnes sont en garde à vue, 8 gardes à vue qui sont en cours, dont l'assaillant, bien sûr, et qu'on a appris que le grand frère de cet assaillant est en prison car il n'avait pas, il y a quelque temps, dénoncé un projet d'attentat qui visait l'Élysée et les policiers. On est donc, Philippe Guibert, là, dans un périmètre vraiment de terroristes, de projets terroristes, et ce n'est pas sans rappeler, on évoquera aussi le lien évidemment avec Israël dans quelques instants, mais ça n'est pas sans rappeler Samuel Paty. Il y a 3 ans, on est à 3 jours de la date de l'anniversaire et c'est encore un enseignant, un professeur qui est assassiné par un terroriste tchétchène.
Oui, c'est encore un tchétchène. Pardonnez-moi d'insister sur ce point qui ne me paraît pas tout à fait négligeable parce que pour toutes les personnes qui ont un tout petit peu étudié les mouvances islamistes, ils savent que dans la communauté tchétchène, qu'on a accueilli en France suite à ce qui s'est passé en Russie, la guerre en Tchétchénie. Il y a, si j'ose dire, un taux de radicalisé et d'islam radical qui est particulièrement élevé, plus quelques autres problèmes graves de comportement, y compris dans la vie quotidienne. À un moment, il faut le dire. Ce qui nous renvoie tout de suite au problème, parce qu'effectivement, est-ce que c'est le lien avec la célébration 3 ans après de l'assassinat de Samuel Paty, ou bien, comme le suggère Gérald Darmanin ce soir, est-ce que c'est plutôt le lien avec l'appel au djihad mondial qui a été lancé par le Hamas pour aujourd'hui, précisément. Ça, c'est l'enquête qui pourra encore plus le préciser. Mais là, on est face à nos... C'est pas un dysfonctionnement des services de police, de renseignement, c'est un dysfonctionnement de notre appareil législatif. C'est-à-dire qu'une famille et une personne qui devrait être expulsée ne l'ont pas été. Et donc là, on est dans c'est un drame, c'est une tragédie, on a une personne qui en est morte et on a un problème dans notre législation. C'est-à-dire qu'il était surveillé, son frère, vous l'avez dit, est en prison, son père a été expulsé. Mais Darmanin l'a expliqué sur TF1, du fait qu'il avait moins de 13 ans quand il est arrivé en France, il est inexpulsable, alors même que sa demande de droit d'asile a été refusée, et alors même qu'on savait qu'il était en pleine radicalisation islamiste, puisque les services de renseignement le surveillaient, l'avaient même mis sur écoute téléphonique, et qu'il y avait eu un contrôle hier de cette personne. Voilà, donc on est face à une certaine impuissance de l'État, pas une impuissance du... C'est pas la question de mettre en cause la responsabilité du politique, sauf à dire que justement, il faut que le politique se charge de faire évoluer la législation quand il faut la faire évoluer. Et là, à l'évidence, on est face à ce problème.
Peut-être les failles d'un système. Je vous cède la parole dans un instant, Alexandre Devecchio. Mais en effet, Gérald Darmanin s'est exprimé chez nos confrères de TF1 tout à l'heure. Et le ministre de l'Intérieur a évoqué, on écoutera plusieurs extraits de son interview, parce que là, on est vraiment dans un cadre très particulier, très précis et assez anxiogène, en effet. Mais pour le cas de cet assaillant, de cet individu, il a été entendu par la police hier. Écoutez.
On se doutait de quelque chose. Donc hier, la DGSI, la police nationale, a interpellé cette personne pour vérifier s'il n'y avait pas d'armes sur lui et également pour faire des techniques de renseignement plus intrusives, c'est-à-dire de regarder son téléphone et notamment les messageries cryptées. Donc il y avait une course contre la montre, mais aucune menace, aucune arme, aucune indication.
Alors, on ne pouvait pas dire, Alexandre Devecchio, qu'on ne savait pas, mais en effet, à ce moment-là, même si il est fiché S depuis 11 jours, même si c'est quelqu'un qui est surveillé, les policiers sont obligés de le relâcher. Et 24 heures plus tard,
je vais dire ça de manière plus brutale peut-être que Philippe Guibert, mais je crois que le droit est en train de tuer la démocratie. C'est-à-dire qu'on a des législations trop complexes, trop compliquées, des principes, de grands principes dont il faut être fier, comme les droits de l'homme, mais qui ont été totalement dévoyés. Il n'y a pas un droit de l'homme à venir s'installer sur un pays, dans un pays sans en respecter les règles, en menaçant ce pays et de ne jamais être expulsé. Les politiques ont effectivement une responsabilité parce que c'est eux, à eux de reprendre le pouvoir effectivement sur le droit. Le droit, c'est la loi, c'est la bouche. Enfin, les juges sont la bouche de la loi. Donc c'est aux législateurs de prendre le taureau par les cornes. Il ne le fait pas aussi pour des raisons politiques parce qu'il y a une forme d'intimidation politique. Dans le cas présent, le Parti communiste, des associations s'étaient mobilisées pour que cette famille ne soit pas expulsée. Donc là, il y a aussi des questions à se poser sur certains partis politiques, sur certaines associations qui sont parfois financées par l'État. Est-ce qu'il faut continuer à les financer alors que d'une certaine manière elles nous mettent en danger, disons-le. Il y a toutes ces questions à se poser, mais c'est une faillite générale qui est inquiétante parce que nous sommes dans un monde en guerre. Pour faire le lien avec ce qui s'est passé en Israël, effectivement, le Hamas a appelé à un djihad mondial. Et moi, je pense depuis le début que l'attaque du Hamas contre Israël n'a rien à voir avec la guerre de territoire en Israël. C'est effectivement une attaque islamiste et du même ordre que ce qu'on a vécu au Bataclan et avec Charlie Hebdo. Donc on est attaqué, on est en guerre et dans ce contexte-là, on n'a pas du tout l'appareil législatif pour faire face. On a des associations et des partis politiques qui travaillent contre la France. Donc c'est vraiment un contexte dramatique pour être aussi faible et impuissant.
On est obligé de faire le lien avec Israël, Philippe Guibert. Vous l'avez dit tout à l'heure. Ouais. En effet, il y a peut-être le système français dont il faudrait revoir certains éléments, mais le lien, qu'il soit mimétique ou direct, il est établi avec ce qui se passe au Proche-Orient.
Évidemment. Ah oui, comme je vous disais tout à l'heure, l'appel du Hamas pour le djihad mondial, c'était aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui qu'on a un passage à l'acte de la part d'une personne qui faisait clairement partie de la mouvance islamiste la plus radicale, si tant est qu'il y en ait des modérés. Le lien avec le Proche-Orient, ce qui s'y passe, c'est évident. Hier soir, on avait, dans un autre ordre d'idée, je ne fais pas d'amalgame, mais enfin, néanmoins, nous avions quand même une manifestation Place de la République, pourtant interdite, où il y avait pas loin de 3000 personnes, si j'ai bien noté, avec des gens qui étaient avec des pancartes Israël assassin et
Palestine vaincra. Manifestation pro-palestinienne.
Alors, pro-palestinien,
est-ce que c'est
oui,
pro-Hamas ou pro-palestinien?
Ah, c'est toute la question.
Il y a les deux. Parce que, il y a sans doute les deux.
Parce que qu'on puisse savoir, penser que les Palestiniens ont droit à un État et que Israël a droit à sa sécurité, c'est la position de la France depuis le général de Gaulle. En revanche, qu'après les atrocités qui ont été commises en Israël, on puisse avoir des gens qui défilent avec la pancarte « Israël assassin et Palestine vaincra », dans une manifestation interdite, avec 3000 personnes, c'est tout de même un point très inquiétant. Donc évidemment qu'il y a un lien, et que, à mon humble avis, mais l'enquête le précisa, c'est une manifestation tragique, ce qui s'est passé ce matin dans, dans ce lycée de l'importation du conflit. Alexandre disait tout à l'heure, ce qu'a fait le Hamas, c'est une attaque islamiste. La dimension islamiste est plus qu'évidente. Néanmoins, soyons prudents. Quand même avec ce qui se passe par ailleurs au Proche-Orient, où quelques articles aujourd'hui dans la presse internationale montrent que la coordination a été très étroite avec l'Iran et que cela peut s'inscrire dans un plan d'ensemble d'attaque contre Israël. Et donc, ce n'est plus, disons, ce n'est plus une guerre pour définir un territoire palestinien, c'est une guerre pour tenter de détruire Israël.
On dit exactement la même chose. Hein. D'ailleurs, c'est dans la, sans même parler de l'Iran, effectivement, il y a des alliances qui se nouent, mais la charte du Hamas est très claire. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est dans cette situation dans la bande de Gaza. Leur objectif n'est pas du tout de créer un État palestinien, mais d'éradiquer toute présence juive dans le monde arabo-musulman, et d'ailleurs sans doute toute présence chrétienne aussi. Donc oui, c'est évidemment une attaque islamiste, mais pour en revenir à la France, peut-être que ce qui m'inquiète le plus, je vais vous dire, c'est plus ces manifestations-là et le silence aussi de tous les responsables religieux musulmans, de toutes les associations communautaires, que ce que nous venons de vivre à Arras. Parce que, à la limite, le djihadisme terroriste, on pourrait se dire, c'est... Ça peut être résolu par des problèmes, enfin, par des mesures de police, mais le fait qu'apparemment une grande partie de la population française, ou du moins qui vit sur le territoire, est solidaire du Hamas, ça pose un problème considérable. Ça veut dire qu'on est dans une question de partition.
Pardonnez-moi, une grande partie de la population française est proche du Hamas.
J'ai dit une partie de la population française, mais qui en tout cas. Qui vit sur le territoire ou qui a souvent la nationalité française aussi. Donc ça, c'est quand même beaucoup plus inquiétant. Et d'ailleurs, le président de la République, hier, a appelé à l'unité nationale. Ça veut dire ce que ça veut dire. En creux, en réalité, ça veut dire qu'on est un pays fragmenté et en voie de décomposition. C'est ça qu'il a dit entre les lignes hier, le président de la République.
Sur les manifestations auxquelles vous faites allusion, les manifestations notamment pro-palestiniennes ou pro-Hamas, la terminologie est importante, mais on a du mal, il y a une confusion, et on a du mal vraiment à déterminer qui sont les gens qui participent à ces manifestations. Il n'y a pas eu qu'à Paris, d'ailleurs, dans plusieurs villes de France également. Je propose d'écouter une petite séquence avec des slogans qui heurtent très vraisemblablement, et on écoutera juste après Gérald Darmanin sur le lien que l'on peut faire entre ce qui s'est passé à Arras aujourd'hui et ce professeur tué, et également la situation au Proche-Orient. D'abord, la séquence de la manifestation parisienne hier. Voilà, on entend notamment Israël terroriste, les drapeaux palestiniens dans le contexte que l'on décrit, et Gérald Darmanin ce soir qui est interrogé et qui répond la chose suivante. Il y a, selon ce qu'il sait, ou en tout cas les informations qu'il a pu recueillir, un lien entre Arras et Israël.
Ce n'est pas à moi de le dire, il y a une enquête et il y a un parquet antiterroriste qui s'est saisi. Ce que je peux vous dire, c'est que d'après nos renseignements, d'après nos informations, il y a un lien, malheureusement, entre ce qui s'est passé sans doute dans le Proche-Orient et le passage à l'acte. On le voit d'ailleurs parce qu'il y a eu des appels, évidemment, qui sont tout à fait ignobles pour pouvoir passer à l'acte.
On n'est donc pas dans un cadre de terrorisme franco-français ou de la France touchée. C'est une espèce de mondialisation du terrorisme.
Tout à fait. C'est Henry Kissinger qui l'a dit il y a quelques jours, je n'ai plus les mots exacts, mais en gros, il regrettait qu'on ait fait venir des gens qui ont des mœurs, des valeurs, des codes différentes et qui constituent... Alors, il parle de groupes de pression. En réalité, il veut dire des communautés organisées qui finalement sont en guerre d'une certaine manière contre l'État qui les accueille. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est mondial, qui est lié à la mondialisation, qui est lié à l'immigration et qui est particulièrement vrai en Europe et singulièrement en France, parce que je crois qu'on ne s'est pas donné les moyens de contrôler ces flux migratoires, en grande partie pour des raisons idéologiques, parce que très longtemps, on a cru à un multiculturalisme heureux, une sorte de vivre ensemble, et qu'on n'a pas voulu voir toutes les difficultés qu'on avait devant nous. La première chose qu'on a fait quand il y a eu ces attentats en Israël, c'est de protéger les synagogues et les écoles juives. Et ça veut dire quelque chose. Et ça, le problème de l'antisémitisme qui n'a rien à voir avec l'extrême droite, c'est pas nouveau. Ça date de 2002. On se souvient du livre Les territoires perdus de la République de Georges Bensoussan qui dénonçait déjà le phénomène. Rien n'a été fait à ce moment-là. Au contraire, il y a eu un très grand déni. Et les auteurs de ce livre, qui réunissaient des témoignages de profs de banlieue, ont même été accusés de racisme et d'islamophobie. Donc on a perdu beaucoup de temps et on ne s'est pas doté des politiques nécessaires comme elles existent aujourd'hui au Danemark pour faire face.
Et Gérald Darmanin l'a dit, a prévenu les Français, attention, il peut encore se passer beaucoup de choses. Voilà pourquoi la France est passée en alerte urgence attentat du plan Vigipirate, c'est-à-dire que c'est un grade élevé, un niveau élevé, Philippe Guibert, de cette situation, de ce plan. Cela veut dire qu'il y a deux solutions, soit parce qu'il y a une menace d'attentat, soit parce qu'il y a eu un attentat. Et c'est effectivement la dernière option qui a été requise et qui a été choisie pour que l'on déclenche cette alerte urgence attentat. Et c'est la liberté et la démocratie de la France, mais en général, peut-être de la planète, qui se retrouve en danger ce soir. À travers ses actes, à travers le lien que l'on fait avec le Proche-Orient, avec, encore une fois, un professeur qui a été assassiné.
Que la démocratie soit en danger. Ce qui est en danger, ce sont d'abord des personnes. Il y a une menace sur la sécurité des personnes. Je vous signale qu'au bout d'une grosse semaine, après les événements tragiques en Israël, nous avons les Français juifs qui se sentent menacés. Et là, ce soir, nous avons la corporation des enseignants qui se sent menacée. J'en connais quelques-uns proches et qui ont été profondément choqués, d'une façon encore plus forte et un peu différente de la façon dont nous avons été choqués. Et donc, la menace, elle est d'abord sur la sécurité. On ne peut plus accepter, presque 9 ans, après les attentats Charlie Hebdo, presque 12 ans après les attentats de Mohamed Merah, qu'on n'arrive pas à éradiquer. Alors vous me direz, on ne peut pas éviter qu'un personnage isolé puisse passer à l'acte. Mais tout de même, 10 ans après les premières vagues d'attentats en France, c'est très difficile à accepter cette situation. Qu'on ait des pans entiers de la population qui se sentent menacés par des attentats potentiels. Et donc, je crois, encore une fois, que c'est une question de... La question de la législation est posée, et plus profondément, d'un point de vue politique et idéologique, la question est celle de la sécurité du groupe, de la nation, versus celle du droit des individus. On a un droit, un état de droit qui s'est développé depuis 20-30 ans, qui a privilégié le droit des individus et qui a accumulé des décisions, des lois, des jurisprudences pour protéger le droit des individus. Au nom de bons sentiments, la protection des individus peut tout à fait se défendre. Mais on mesure bien que dans certains cas limites, et là on est dans un cas limite avec cet attentat ce matin, le droit des individus a été privilégié par rapport à la protection du groupe et par rapport à la protection des citoyens. Et donc, il y a un moment donné où il faut faire attention. Tu disais, Alexandre, que une partie importante de la population soutenait le Hamas. Je n'irai pas jusque-là.
Pas de la population. Une partie, en tout cas.
Oui, mais qu'on a du mal à déterminer, parce qu'il y a dans l'immigration et dans la population issue de l'immigration, il y a une grande majorité silencieuse. Et donc.
Justement, elle reste silencieuse. J'ai dit, il y a ceux qui défilent, qui sont peu, effectivement, mais il y a tous ceux qui restent silencieux.
N'induisons pas le fait de ce silence, que ça soit forcément un soutien au Hamas.
C'est peut-être une méconnaissance de la situation aussi. Oui, et je pense qu'ils très peu, peut-être, font la différence entre le Hamas et la Palestine et font un amalgame.
Et puis je pense que beaucoup sont surtout accablés. Donc on a un enjeu politique très fort qui est qu'on doit maintenant se dire, attention, la sécurité des personnes et du groupe importe parfois plus que la sophistication dans la protection des droits des individus.
Faut-il...
Je pense que là on est passé trop loin et qu'il faut revenir en arrière sur un ensemble de choses, parce qu'on arrive à des situations, vous vous rendez compte, on est en absurdie. Ce qui s'est passé.
Revenir en arrière, ça veut dire quoi ?
Ça veut dire qu'il y a.
Sur quoi faut-il revenir, Philippe Guibert ?
Bah, écoutez, celle de.
Concrètement.
Concrètement, ce matin, vous avez une personne qui passe à l'acte dans ce lycée, qui n'est pas expulsable parce qu'il est arrivé avant 13 ans en France. Et donc, on sait qu'il est radicalisé. Il y a même la police qui le contrôle la veille de l'attentat, parce qu'ils ont des informations qui sentent bien quelque chose qui se passe, qui les laisse soupçonner quelque chose. Et on ne peut pas l'expulser. Et ça fait des années que cette procédure d'expulsion est bloquée. On a aussi des associations, Alexandre l'a dit, je suis d'accord, qui doivent faire leur petit examen de conscience. C'est-à-dire qu'à un moment donné, où on ne peut pas être sur une position de principe intangible, on doit accueillir tout le monde et on ne doit jamais expulser personne. C'est une position que défendent un certain nombre d'associations qui n'est pas tenable. C'est-à-dire que quand un étranger commet des délits, a fortiori quand il est dans la radicalisation islamiste, à un moment donné, non, c'est pas possible, il faut l'expulser. Voilà. Donc, il y a toute une série de points. Moi, je suis attaché aux libertés fondamentales. J'ai justement pas envie qu'on aille vers un État autoritaire qui menace les libertés, voire qui menace la démocratie, pour revenir à votre question. Mais je crois qu'elle n'est pas menacée, mais ça suppose que l'État muscle sa législation de façon à ce qu'on puisse quand même éviter. Cet attentat de ce matin était évitable, c'est ça qui est terrible.
Il y en a un autre qui a été évité cette semaine à Limay, dans les Yvelines. D'autres ont été évités ces dernières semaines.
Il aurait dû être juridiquement évitable dans la mesure où cette personne logiquement aurait dû être expulsée. Le bon sens dit qu'elle aurait dû être expulsée.
J'ai commencé par là, moi, en disant le droit est en train de tuer la démocratie. Philippe l'a dit mieux que moi. Effectivement, l'excès d'état de droit est en train de détruire la société, puisque au-dessus de grands principes fondamentaux, il y a effectivement notre sécurité, notre cohésion nationale, et tout cela est menacé par effectivement des législations inadaptées. Il y a aussi quand même la question de l'immigration et du nombre. J'ai peut-être été exagéré quand j'ai dit une grande partie soutient le Hamas, mais une partie significative soutient le Hamas et n'a pas, ou du moins n'a pas l'air d'être dérangé par l'abjection de ces crimes. Et ça, c'est un vrai problème. Et au-delà des législations, on a aujourd'hui des populations qui sont venues en France et qui ne sont pas intégrées, qui se tournent vers l'islam radical, qui se radicalisent et qui sont en nombre. Et ça, c'est extrêmement inquiétant. Donc, au-delà des législations qui doivent permettre d'expulser les gens dont on sait qu'ils sont radicalisés, je pense qu'il faut se donner les moyens d'arrêter de faire venir des gens qu'on ne pourra pas de toute manière intégrer. Les Tchétchènes, c'est pas hasard. Philippe a commencé par là en disant c'est souvent des Tchétchènes. Mais oui, mais pourquoi ? Mais parce qu'ils viennent d'un pays en guerre, qu'ils viennent d'un pays où l'islamisme était hyper répandu. Donc
précisément, celui-là est russe. Hein. Il est d'origine tchétchène, mais s'il avait été reconduit à la frontière ou envoyé dans son pays, ça aurait été la Russie.
Hein. Les individus viennent avec leur culture, si vous voulez, avec leur passé. C'est pas vrai que tout ça ne joue pas. Donc il faut arrêter de s'amuser à accueillir des gens dont on sait pertinemment que le passé, la culture, l'idéologie feront qu'ils seront une menace pour notre société. Pas toujours une menace djihadiste, mais aussi une menace parce qu'ils ne participeront pas du tout à la cohésion nationale. Ils participeront au processus de partition qui est engagé aujourd'hui en France.
Philippe Guibert, complément peut-être ?
Justement, là, il faut parler du droit d'asile. Le droit d'asile, il est politiquement inventé, il existe dans l'Église catholique ou dans d'autres lieux de culte avant la Révolution française, en tant que démarche personnelle. Mais politiquement, le droit d'asile est construit avec la République et la Révolution française. Et quel est l'esprit du droit d'asile? Il faut toujours revenir aux origines. C'est d'accueillir les combattants de la liberté.
Les combattants.
Combattants de la liberté, pas les ennemis de la liberté. Et je suis désolé de dire, quand on voit qu'on a accueilli, au nom du droit d'asile, au nom de l'extension du champ du droit d'asile et de ce qui permet l'asile, on a accepté des gens qui sont des fanatiques religieux. On pourrait développer sur la Tchétchénie.
Il y a eu l'Algérie avant. La guerre d'Algérie, comme on est dans une guerre de djihad global, disons-le. Pardon, je te coupe, tu y reviens. Mais la décennie noire en Algérie, c'était il n'y a pas longtemps. C'était dans les années 90. Et c'est juste après que l'islamisme a commencé à grandir en France. Pourquoi? Parce qu'au nom du droit d'asile, on a accueilli en France des gens qui massacraient leurs voisins en Algérie. Et depuis, on n'a pas tiré les leçons de tout ça et on continue. Et je laisse Philippe finir son développement.
Sur le droit d'asile, il faut bien quand même qu'on se mette d'accord, qu'on soit attaché. Moi, je suis attaché au droit d'asile pour accueillir des gens qui sont persécutés par des dictatures. Mais je ne suis pas pour accueillir des gens qui sont des ennemis de la liberté. Un fanatique religieux est un ennemi de la liberté. Et nous avons accueilli des Tchétchènes suite à ce qui s'est passé en Russie et la guerre en Tchétchénie. Ce n'est pas du tout pour défendre Vladimir Poutine et ce qu'il a pu faire là-bas était tout à fait horrible. Mais on ne peut pas faire passer dans le droit d'asile des gens qui sont des ennemis de la liberté. Ouais. Je suis désolé.
Peut-on, je reviens à Alexandre Devecchio, à l'observation que nous faisions sur les manifestations pro-palestiniennes et notamment une certaine partie de la population française qui serait plutôt, non pas militante, mais en faveur du Hamas. Est-ce que ces mêmes personnes, selon vous, abondent et se félicitent peut-être de la mort de ce professeur aujourd'hui à Arras, puisqu'on est en train de tisser un lien entre la situation au Proche-Orient, le Hamas, les terroristes du Hamas et un terroriste aujourd'hui qui a répondu à un appel mondial de djihad aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des gens aujourd'hui en France qui se félicitent ou qui sont indifférents à la mort d'un professeur?
Il y en a. J'ose espérer que c'est pour le coup une petite minorité. Je n'irai pas jusque là. Je pense que quand la violence finalement frappe à côté de chez vous, parce que finalement ces gens-là habitent en France, la réaction n'est pas la même. Et c'est vrai qu'il y a une émotivité par rapport à la cause palestinienne qui brouille peut-être les repères élémentaires. Il n'empêche, je pense qu'en France, il y a une zone grise avec des individus qui n'adhèrent pas pleinement, si vous voulez, d'une part à la culture française, d'autre part aux valeurs occidentales qui sont les nôtres. Et là, il y a une forme de conflit de civilisation, appelons-le comme ça, qui s'installe sur le territoire et qui conduit non pas toujours à la violence extrême qu'on connaît aujourd'hui, mais qui conduit effectivement à une communautarisation, une partition et des tensions et des violences au quotidien qui sont de plus en plus nombreuses et qui pourrissent la vie des Français.
Je vous cède la parole dans un instant, Philippe Guibert. On attend également une intervention de Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation, qui doit s'exprimer donc sur cet attentat et sur la mort de ce professeur. On fera un point sur l'actualité évidemment très dense autour d'Arras et autour du Proche-Orient dans quelques instants. Mais d'abord, sur cette affaire et notamment sur le Tchétchène et sur cet assaillant. Voilà ce qu'a dit le procureur antiterroriste, notamment en matière de qualification. C'était il y a quelques instants.
Le parquet national antiterroriste s'est saisi de ces actes sous les qualifications suivantes. D'abord, assassinat en relation avec une entreprise terroriste, puis tentative d'assassinat en relation à une entreprise terroriste, et enfin, association de malfaiteurs terroristes criminels. L'enquête se poursuit très activement. Plusieurs personnes ont été placées en garde à vue.
Et on revient sur cette affaire dans quelques instants. On débat évidemment avec Philippe Guibert et Alexandre Devecchio dans cette dispute. Mais d'abord, on fait un point avec vous, Mathieu Devez. Bonsoir sur cette actualité très chargée.
Bonsoir Lionel, bonsoir à tous. Et à la une, l'horreur à Arras où un enseignant a donc été tué dans un attentat islamiste. Presque 3 ans, jour pour jour, après l'assassinat de Samuel Paty, Dominique Bernard, c'est son nom, a été poignardé à mort. Les faits se sont déroulés ce matin dans un collège et lycée de cette commune du Pas-de-Calais. Dominique Bernard avait 57 ans, il était le père de 3 filles. 2 autres personnes ont été grièvement blessées. Et sachez que la France est passée ce soir en alerte urgence attentat. Dans ce contexte, Emmanuel Macron appelle à rester unis et à faire bloc, je cite, face à la barbarie du terrorisme islamiste. Le chef de l'État s'est rendu sur place cet après-midi. Il a notamment rendu hommage à tous les enseignants. Emmanuel Macron a également indiqué qu'une autre tentative d'attentat dans une autre région avait été déjouée grâce à une intervention des forces de l'ordre. Le bilan, lui, ne cesse de s'alourdir. Après l'attaque du Hamas contre Israël, Catherine Colonna annonce que 15 Français ont été tués. Et ce n'est qu'un bilan provisoire. Lors d'une émission télévisée, la ministre des Affaires étrangères déclare que nous avons aussi des disparus et peut-être des otages. Enfin, plusieurs milliers de Palestiniens ont fui vers le sud de la bande de Gaza. Israël a en effet ordonné l'évacuation du nord de l'enclave palestinienne sous 24 heures. Un ultimatum rejeté par le Hamas. L'ONU, de son côté, dit craindre des conséquences humanitaires dévastatrices. Le Premier ministre israélien a de nouveau promis ce soir de détruire le Hamas, alors que l'armée israélienne se prépare à une invasion terrestre de la bande de Gaza.
Merci Mathieu Devez. Prochain point sur l'actualité à 22h sur l'antenne de CNews. Merci Mathieu pour toutes ces informations. On en revient à cette dispute avec Philippe Guibert et Alexandre Devecchio. Et Philippe, vous vouliez revenir peut-être sur le lien que nous établissons entre ce qui s'est passé à Arras et la situation au Proche-Orient, c'est cela ?
Et puis les manifs pro-palestiniennes. Oui. Enfin, pro-palestinienne, on remet plein de guillemets, puisqu'on peut se demander si c'est...
Ou anti-israélienne, on a entendu les slogans.
C'est surtout des manifs anti-israéliennes, vous avez parfaitement raison. C'est comme ça qu'il faut peut-être les appeler, sinon pro-Hamas. Dans cette mouvance, il y a aussi beaucoup l'extrême-gauche. Il y a des groupuscules d'extrême-gauche. Là, je ne parle pas de la France insoumise. Je parle de toute une série de groupuscules pas forcément lié à l'immigration d'ailleurs, qui ont une certaine force dans les universités, selon les universités, avec des poids dans les résultats électoraux selon l'université qui peut être très variable. Il faut se poser la question, il y a aussi un combat politique et idéologique à mener contre cette extrême gauche, qui, elle non plus, n'adhère pas tellement, finalement, à nos grandes valeurs de la République.
Elle est anti-républicaine et anti-occidentale.
Exactement. Et donc, il y a un combat aussi à mener, parce que ces groupuscules peuvent avoir un effet. Alors, ils sont minoritaires, mais enfin, ce sont des minorités actives. Et ces groupuscules peuvent avoir des effets d'entraînement par rapport à d'autres populations. Donc, je trouve que là, il y a un sujet... par exemple, moi, j'entends pas, enfin, exister quand j'étais jeune, les mouvements pro-palestiniens qui existaient il y a 30 ans n'étaient pas forcément des mouvements anti-israéliens, voire pas du tout. Ils combattaient pour qu'il y ait un État palestinien à côté de l'État israélien avec des garanties de territoire et de sécurité pour les uns et pour les autres. Je les entends plus. Ces militants-là qui étaient pour des solutions équilibrées, je ne les entends plus. Alors, c'est vrai que l'évolution de la situation au Proche-Orient a pu les décourager, parce que la solution pour les deux États, on peut être intellectuellement favorable à cette solution, mais politiquement constater qu'elle est plus que compliquée à mettre en œuvre vu l'état des rapports de force, vu les interlocuteurs qu'il peut y avoir, notamment dans le camp palestinien, mais aussi du côté des gouvernements israéliens. Et donc, on se retrouve avec des gens qui sont dans des positions complètement radicales et polarisées, où l'enjeu n'est plus d'être pour un territoire palestinien, mais d'être contre Israël et pour que Israël, finalement, soit disparaisse, soit remise en cause. Et c'est ça l'enjeu idéologique sur lequel on doit se battre. Ce n'est pas simplement un combat contre la mouvance islamiste. Bien entendu que ce combat, on doit le mener. Mais enfin, encore une fois... là aussi, depuis les lois, depuis une dizaine d'années, on a un arsenal de lois, peut-être qu'il faut le compléter, mais on est allé un peu, si j'ose dire, au bout de la bataille idéologique. Il y a aussi une bataille idéologique à mener du côté de l'extrême-gauche, contre l'extrême-gauche, pour combattre cette mouvance et qui, là, va bien au-delà de l'islamisme.
Oui,
et qui me paraît très dangereuse.
Car il y a eu Philippe Guibert...
Pardon d'avoir été un peu long.
C'est vrai, non, mais c'était intéressant. Il fallait le dire et prendre le temps de le dire. Il y a eu, c'est vrai, une polémique autour des réactions, ou des non-réactions plus exactement, pour condamner ou qualifier comme terroriste le Hamas de la part d'une certaine gauche, et en tout cas de l'extrême gauche.
Il y a eu des réactions. Il y a le nouveau parti anticapitaliste...
Sans reconnaître qu'il s'agissait d'actes terroristes.
Non, il y a eu mieux que ça. Il y a eu effectivement les réactions de la France insoumise Hafez qui niait le caractère terroriste du Hamas, mais il y a le nouveau parti anticapitaliste qui a carrément applaudi, fait l'apologie du terrorisme. Oui. Et il y a aussi les indigènes de la République qui sont dans cette... Et effectivement, ce sont deux mouvances qui sont présentes à l'université, mais Philippe Guibert a raison, ce ne sont pas les seuls. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a parlé d'islamo-gauchisme à l'université. Il y a effectivement le wokisme qui est dans une forme de haine de soi et qui haït l'Occident. Et c'est vrai qu'Israël est devenu une sorte de symbole aujourd'hui de l'Occident. Et donc, comme ces gens-là considèrent que l'Occident, son histoire, c'est le mal absolu, Israël étant le symbole de l'Occident, il faut détruire Israël. Oui. Donc, il y a toute cette idéologie-là derrière. Philippe Guibert a parfaitement raison.
Comme il y a eu un débat, effectivement, au moment de reconnaître si le Hamas était un groupe terroriste ou pas, on attendait les réactions aujourd'hui de la classe politique concernant cet attentat à Arras et ce professeur qui, je le rappelle, a été tué et notamment de blessés graves, cette attaque au couteau dont on est en train de parler. Je le dis pour la régie, on va d'abord passer quelques tweets, en tout cas quelques messages sur le réseau X, en commençant par Jean-Luc Mélenchon, toujours très attendu, Clémentine Autain également, puis ensuite on lira ce qu'a déclaré Éric Zemmour. Jean-Luc Mélenchon qui dit « 3 ans après l'ignoble assassinat terroriste de Samuel Paty, de nouveau une attaque meurtrière contre des professeurs, effroi et dégoût face à l'attaque au couteau et l'assassinat d'un enseignement à Arras, condoléances émues aux proches de la victime défunte, compassion totale pour les blessés, affection pour tous les enseignants, élèves et parents de l'établissement, à aucun moment le mot terrorisme. »
C'est ça, ni islamisme.
Mais islamisme. Et islamisme, exactement. Juste, et Clémentine Autain, « Le choc est immense. Un assassinat et plusieurs blessés à Arras, un attentat déjoué à Limay dans la même journée. Condamnation totale du terrorisme islamiste. » Là, il y a un changement tout de même.
Oui, parce que je crois que les réactions ont été très violentes à l'égard de la France insoumise, légitimement violentes, et que certains ont peur que ce soit leur point de détail. Si j'ose dire l'équivalent de ce qu'avait été le point de détail de l'histoire pour Jean-Marie Le Pen, et que ça les ghettoise politiquement définitivement. Donc je pense qu'effectivement ça traduit des divergences. Alors Clémentine Autain n'est pas la plus républicaine d'entre eux. Elle, je pense qu'il y a un positionnement tactique et pragmatique, mais il y a des gens comme François Ruffin qui sont effectivement pas du tout sur la ligne islamo-gauchiste d'Uno Bono, par exemple. Donc effectivement, il y a des nuances dans la France insoumise, mais ce qui est inquiétant, c'est qu'il y a également la NUPES, c'est-à-dire des gens qui viennent de la gauche socialiste, normalement, ne sont pas clairement désolidarisés de tout ça. Enfin, ils s'expriment quand il y a...
Ils sont désolidarisés, mais ils ne veulent pas quitter la
NUPES. Non, mais ils ne quittent pas la NUPES. C'est quand même des gens en plus qui ont fait des leçons de morale à la droite, qui pour le coup n'a jamais pactisé avec Jean-Marie Le Pen, en installant un espèce de cordon sanitaire et en interdisant de parler de certaines questions comme la question de l'immigration. Donc là, il y a un deux poids, deux mesures. Et donc des gens qui ont fait de la morale depuis des années devraient peut-être se regarder aujourd'hui dans le miroir. Surtout que je n'excuse pas du tout Jean-Marie Le Pen, mais aujourd'hui, l'islamiste tue des juifs notamment. Donc les paroles de Jean-Luc Mélenchon, les paroles de tout ce qui gravite autour de la NUPES ont des conséquences réelles, physiques, charnelles. Là, je pense que quand on est un responsable politique, eh bien, parfois il faut savoir perdre son mandat plutôt que son honneur.
Juste, vous le savez, aujourd'hui, ça ne vous a pas échappé, c'était une journée de manifestation, c'est évidemment passé assez inaperçu aujourd'hui, quoique il y a eu des posts, des photos de certains responsables politiques cet après-midi, alors qu'on était au cœur véritablement de cet attentat et de la mort de ce professeur à Arras. On écoute des membres de la NUPES après donc l'annonce de cet attentat. Écoutez.
Nous devons, rester unis, notre pays doit rester uni, qu'il y a un danger sur la paix civile en France, et qu'il faut avoir conscience que chacun et chacune d'entre nous doit être toujours un rempart contre la haine.
Les appels du Hamas peuvent aussi conduire à ce que des gens s'identifient à cette cause, alors même que ça n'a aucun sens d'apporter sur notre sol le conflit israélo-palestinien. Il faut évidemment veiller à ce qu'il n'y ait pas la reproduction d'actes de cette nature.
Pour connaître des personnes qui travaillent dans ce lycée, c'est un moment qui est extrêmement dur. On s'apprêtait à célébrer les 3 ans de la mort de Samuel Paty, qui a ébranlé la communauté enseignante, qui a ébranlé toutes celles et ceux qui tiennent au système scolaire.
On occupe l'espace médiatique, en tout cas les responsables politiques occupent l'espace médiatique, ce qui est normal.
Ils réagissent une tragédie pareille. Et dans le climat actuel, c'est logique qu'ils réagissent avec force, et là ils le font bien. Le problème est politique. Et partons de revenir après avoir discuté de sujets beaucoup plus tragiques. Mais là, il faut revenir à de l'analyse politique franco-française. Et se demander pourquoi les écologistes et le PS n'ont pas encore pris une initiative pour reprendre le leadership au sein de la gauche. Enfin, je veux dire, là, ils ont eu...
C'est ce qu'est en train de faire Fabien Roussel.
C'est ce qu'est en train de faire Fabien Roussel, mais voilà, je suis stupéfait. Je suis stupéfait par l'attitude des écologistes et de Marie Tondelier et d'Olivier Faure cette semaine, de ne pas avoir saisi cette occasion, alors même qu'il n'y a pas d'échéance électorale immédiate, qu'aux européennes, ils ne feront pas liste commune, parce qu'ils avaient déjà décidé de faire liste séparée. Donc le problème de l'ANUPS ne se pose pas aux européennes. Je suis stupéfait qu'il n'ait pas eu le leadership et l'envie de prendre une initiative pour dire... Attendez, la gauche, c'est pas ça. Historiquement, la gauche, ce n'est vraiment pas ça. Et donc là, je trouve qu'ils ont raté. Ils peuvent encore se rattraper, mais il faut qu'ils aillent vite, parce que l'histoire va vite, parce que les événements, y compris tragiques, vont vite et qu'on passe vite à autre chose. Je trouve que là, ils ont raté une occasion. S'ils veulent se rattraper, c'est très, très, très vite.
Mais en réalité, je pense que ça va être très compliqué, parce qu'il n'y a pas seulement de l'opportunisme politique... chez eux. Il y a deux problèmes. Il y a un problème idéologique, parce que Philippe Guibert a parlé des écologistes. L'islamo-gauchiste, c'est aussi très répandu chez les écologistes. Regardez, le maire de Grenoble...
Sandrine Rousseau, par exemple, a eu une position...
Sandrine Rousseau a eu cette fois-ci un positionnement, mais elle est très complaisante avec des choses qui sont effectivement pas du terrorisme, mais qui sont de l'islamisme, comme la burqa ou des choses comme ça. Et on voit bien que dans leur commune, les écolos sont quand même très ambigus et ont aussi vous parliez tout à l'heure du discours anti-occidental, c'est vraiment des gens qui le portent. Et ensuite, au Parti Socialiste, ils ont été souvent communautaristes aussi. Eux, on se rappelle de la stratégie de Terra Nova, de François Hollande, qui disait qu'il fallait abandonner les classes populaires pour s'adresser aux minorités, notamment. Donc, il y avait déjà une ambiguïté sur le Parti Socialiste. Et surtout, il y a une baisse de niveau, je crois, au Parti Socialiste. Il n'y a plus vraiment de ténors, de gens qui sont porteurs d'une histoire. Philippe Guibert parlait de l'histoire de ces partis-là. Je pense que là, les gens qui sont là ne se sont pas inscrits dans cette histoire, ne sont pas conscients de cette histoire. Et donc là, il y a un problème de niveau politique qui est terrible. Moi, je n'ai jamais été de gauche, mais je me mets dans la peau d'un militant de gauche. Ça doit être assez dramatique. Parfois, je me plains du niveau de la droite française, mais c'est vrai que la débâcle de la gauche est sidérante. Et c'est une débâcle liée aussi à l'éducation, parce que l'éducation politique, ça dit quelque chose du niveau peut-être d'éducation dans tout le pays. Et le problème qu'on a, on parlait tout à l'heure du wokisme, c'est aussi des nouvelles générations peut-être qui sont pas, qui justement ne s'inscrivent plus dans l'histoire, n'ont plus de recul et qui sont du coup capables d'adhérer à n'importe quelle idéologie et à n'importe quel délire.
Sur le manque de recul, et je vais vous céder la parole, Philippe Guibert, juste je vais vous faire encore écouter un témoignage. Parce qu'il y a tout de même une forte propension et une sale habitude à ne pas vouloir appeler un chat, véritablement. Et dans la communication politique, quand il s'agit de reconnaître le Hamas comme étant un groupe terroriste ou pas, si c'est un attentat terroriste ou pas, c'est ce qui est arrivé aujourd'hui à Éric Coquerel, pour LFI également. Alors, à son corps défendant, c'était sans doute assez tôt dans la matinée ou à la mi-journée, il ne disposait pas de toutes les informations à ce moment-là, au moment de l'attentat d'Arras. Néanmoins, il a été interrogé et il a répondu. Et voilà ce qu'il a répondu.
Sur réagir avant de savoir quelles sont les motivations de cet assaillant, et encore pire si on veut le relier au conflit qui est absolument terrible déjà, qui a cours entre Israël et Palestine, serait une faute. Je pense qu'il ne faut pas essayer de récupérer à l'avance ce qui vient de se passer pour justifier tel ou tel discours idéologique. Donc il faut savoir, encore une fois, il est urgent d'attendre. Voilà. J'ai entendu quelques premières informations, mais je pense qu'il est toujours bien d'attendre la confirmation. Rappelez-vous ce qui s'est passé à Annecy. Les faits ont un peu, je veux dire, ont donné tort à ceux qui sont exprimés trop vite et qui ont donné trop vite une lecture de ce sujet-là. Voilà. À ce stade, je préférerais penser que c'est l'action isolée d'un déséquilibré, et je le dis pour le bien de notre pays d'ailleurs. On verra si c'est vrai par la suite.
Ça fait beaucoup d'actes isolés de déséquilibrés tout de même. Ouais,
que de phrases pour ne rien dire et pour finir par une énormité, comme vient de le faire Éric Coquerel.
Il aurait dû s'abstenir ou au moins dire qu'il était probablement que ça pouvait être un acte terroriste, parce que ça existe, il y a des menaces.
S'il jugeait qu'il n'avait pas assez d'informations, le mieux était de se taire, effectivement.
Bien sûr.
Mais bon, on ne va pas faire non plus, on ne va pas passer nos émissions à ne parler que de LFI, parce que je pense très sincèrement.
Mais il donne le bâton pour se faire battre, Philippe.
Oui,
donc on est quand même obligé de
le
montrer à nos téléspectateurs.
Oui, mais je crois que là, ça y est, ils sont un peu morts, quoi. Enfin, je veux dire, entre la réforme des retraites, où ils se sont ridiculisés au Parlement en étant grossiers, les émeutes de juillet dernier, où ils ont été responsables, et là où ils ont frôlé un aspect ignoble, je trouve que ça fait beaucoup trop. Donc le problème est de savoir si aujourd'hui, le problème politique à gauche, est de savoir s'il y a une gauche qui est capable de reprendre un peu le leadership dans tout ça qu'ils ont abandonné. Mmh. Et moi, je pense qu'ils ont intériorisé, au moins du côté du Parti Socialiste, ils ont intériorisé qu'ils n'existaient plus et donc ils n'osent plus exister. Et donc, ils feraient mieux au minimum de suivre Fabien Roussel dans sa démarche, mais ils n'en sont même pas là. Donc, je trouve que la vraie question politique à gauche, si la gauche doit avoir un avenir, ce dont je commence à douter un peu personnellement, c'est que de savoir s'il y a des gens qui sont capables vraiment de reprendre le gant. Pour l'instant, du côté de la direction du PS, ce n'est pas le cas. Après, LFI, que voulez-vous ? On verra. L'heure de vérité, elle sera quand même aux européennes. Mmh. Parce que là, ce ne sera pas un sondage. Les sondages sont très mauvais pour Mélenchon et LFI en ce moment. Mais là, ce ne sera pas un sondage. C'est certes un peu loin, c'est en juin prochain. Mais il y aura une élection et on verra exactement où ils en sont. Moi, je vous prends le pari qu'ils seront en nette baisse.
La question qu'on peut se poser également pour revenir à cette affaire d'Arras et donc ce professeur de français tué par ce terroriste, est-ce que vous avez le sentiment, Alexandre Devecchio, que la menace terroriste islamiste a été sous-estimée en France ? Puisque 3 ans après, on le disait en début d'émission, 3 ans après Samuel Paty, il semble que l'on n'ait pas appris, puisqu'il se reproduit exactement la même chose.
Moi, je pense que les renseignements travaillent bien. D'ailleurs, il avait été interpellé la veille même.
Oui.
Donc, tout ce qui peut être fait de l'ordre de la technique est fait. Le problème, c'est qu'on est dans un problème qui n'est pas seulement technique, qui est un problème de politique. J'y reviens, je ne veux pas être obsédé, mais quand on a une immigration très importante en France, qu'on continue à accueillir de nouvelles personnes, puis on ne peut pas mettre un policier derrière tous les nouveaux venus. Donc, fatalement, ça va se reproduire. Je vais vous dire même, je pense que ça va être le travail d'une génération pour éradiquer totalement non seulement les terroristes, mais l'idéologie qu'il y a derrière. Parce qu'en réalité, c'est une idéologie qu'il faut vaincre aujourd'hui. C'est pas seulement quelques individus radicalisés. Je vous disais que ce qui me faisait peur, c'était tous ceux qui étaient dans la zone grise. Et ce qui me faisait peur aussi, c'était la partition du pays avec des gens qui ont des accords fondamentaux sur ce que nous sommes. Donc c'est cette question-là qu'il va falloir régler. Et elle se réglera pas seulement par des mesures policières. Par contre, ce qui n'a pas été fait depuis 2015, c'est justement ce diagnostic-là. Et c'est sur la question de l'immigration notamment, parce que je vous disais, tout part de là malgré tout. On ne s'est pas doté de la législation nécessaire. On n'a pas fait preuve de la volonté politique nécessaire. Quand bien même d'ailleurs les Français, il y a un consensus incroyable des Français sur cette question-là. Vous prenez les sondages, même les partisans de LFI, je crois, sont majoritairement pour un contrôle drastique des flux, si ce n'est un arrêt des flux. Donc voilà, on a un personnel politique qui n'a pas été à la hauteur de la situation historique dans laquelle nous sommes.
Mais néanmoins, les services de sécurité, les services de renseignement sont à la hauteur en revanche, Philippe Guibert. C'est ce que semblait dire Gérald
Darmanin.
Oui, j'ai
le sentiment. Enfin,
si Jordan Bardella demande sa démission.
Mais je trouve que Jordan Bardella l'a mis un petit peu à côté de la plaque, si vous me permettez l'expression, parce qu'il y a d'autres circonstances. Je me souviens de l'histoire du Stade de France, où je crois qu'Alexandre, on débattait déjà, et là, nous étions plutôt pour demander la démission de Gérald Darmanin. Mais en l'occurrence, ce n'est pas un problème de fonctionnement de la police, c'est un problème, encore une fois, de législation. Donc, C'est pas la démission de Gérald Darmanin.
C'est pas un problème de moyens aussi, pardonnez-moi, Philippe Guibert.
Non, pas de moyens, c'est un problème
c'est-à-dire
de
législation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre un policier devant l'entrée ou des policiers devant l'entrée de chaque établissement scolaire ou derrière chaque élève.
Non,
ou derrière chaque
citoyen. Je voudrais revenir sur la question.
Cela dit, il n'aurait pas dû être sur le territoire français, là. Donc, ouais.
Voilà, et il est arrivé, pas hier matin, il est arrivé il y a 15 ans, je crois en 2003, sauf erreur de.
Oui, c'est exact.
Donc Gérald Darmanin n'a rien à se reprocher, quoi qu'en dise, ou malgré ce qu'écrit.
Non, la responsabilité de Gérald Darmanin, la responsabilité de Gérald Darmanin et du gouvernement, mais de l'ensemble de la classe politique d'ailleurs aussi, c'est d'avoir une législation qui permette d'éviter des situations absurdes et tragiques comme celle qui a donné lieu à cet attentat ce matin, et je le rappelle, à la mort d'un professeur de français. C'est terrible quand même de se dire qu'on a un professeur de français. On a tous en mémoire des profs de français, nos profs de français, qui nous ont appris la littérature, qui nous ont fait aimer la littérature. Et de se dire qu'en France, en 2023, vous avez des profs de français qui prennent un coup de couteau par un fanatique religieux, enfin religieux et politique, franchement, c'est inacceptable, c'est insupportable pour notre pays. Donc la responsabilité des politiques et de Darmanin, c'est d'avoir la législation qui permette d'éviter qu'on en arrive à des situations comme ça. Quant à l'immigration, j'aurais bien développé, parce qu'il faut qu'on aille un peu plus dans le détail quand on parle d'immigration. Je pense que le slogan « zéro immigration » est d'une parfaite démagogie. On a quatre sources d'immigration, je vais aller vite, parce que je pense qu'on arrive en fin d'émission. On a les étudiants, je ne crois pas que ce soit de ce côté-là qu'il y ait le plus de problèmes. On a l'immigration de travail, on en a de moins en moins, mais on peut avoir des besoins d'immigration en matière de travail, encore faut-il les préciser. Et puis on a deux sources d'abus. On a deux sources d'abus que tout le monde connaît, qui s'appellent le droit d'asile. Pas le droit d'asile, comme je le disais tout à l'heure, pour accueillir les combattants de la liberté, mais une dérive du droit d'asile. Et puis des abus ou des dérives dans le regroupement familial. Donc c'est là-dessus qu'il faut travailler. Arrêtons de dire à immigration zéro.
Oui.
Non seulement c'est pas possible, mais je pense que c'est même pas souhaitable pour le pays.
J'ai pas dit immigration zéro. J'ai dit volonté politique pour qu'il y ait une réduction drastique. Et je vous rejoins.
À une réduction, là, je suis parfaitement d'accord.
Et je vous rejoins. Vous avez identifié les sources du problème. Effectivement, les étudiants, mettons que ce soit pas le plus important. Je suis d'accord avec vous. Ensuite, effectivement, il y a le dévoiement du droit d'asile. Et là, il n'y a pas eu la volonté politique pour se doter effectivement de la législation nécessaire. Et vous avez dit le regroupement familial. Et c'est vrai qu'il y a des abus que personne ne pointe. Je faisais un débat avec Michel Auboin, qui un ancien préfet qui connaît bien cette question-là, qui a écrit un bouquin avec un sociologue qui s'appelait Arnaud Lacheret. Ils étaient tous les deux d'accord pour dire que ce regroupement familial était totalement dévoyé, parce qu'en réalité, c'était plus le regroupement familial des origines, où des gens étaient venus pour travailler, ils devaient venir simplement pour travailler et repartir, et ils ont fait venir leur famille. Ok, aujourd'hui, ce sont des gens qui sont parfois nés en France, qu'on appelle regroupement familial, qui prennent des femmes au pays, pardonnez-moi l'expression, et qui les font venir, ou inversement, des mariages arrangés de jeunes filles françaises auxquelles on impose un mari. Est-ce qu'on doit tolérer ça, ne serait-ce que moralement? Je ne crois pas. Enfin, en tout cas, Arnaud Lacheret et Auboin, qui sont tous les deux des modérés, trouvait que c'était absolument scandaleux. Donc là, on a un véritable problème, et en plus un point pour remettre un peu en cause ce regroupement familial, parce que là aussi, les hommes politiques expliquent que c'est pas de notre faute, c'est le droit européen, le regroupement familial, on peut rien y faire. Je crois qu'on peut y faire effectivement quelque chose, surtout quand c'est pas un réel, si vous voulez, regroupement familial, mais que ce sont effectivement des mariages arrangés et endogames qui font que les gens sont ensuite enfermés dans leur propre communauté.
Ouais, on peut essayer de trouver des explications, Philippe Guibert, mais il n'en demeure pas moins que aujourd'hui, on n'est plus en sécurité nulle part. En France, même le ministre de l'Intérieur le dit. Il prévient les Français. Attention. Faites attention. Surveillez. Il faut être extrêmement vigilant.
Je pense que c'est différent de la problématique de l'insécurité.
Oui, mais si les policiers travaillent bien et que malgré tout, il y a des attentats comme ceux de cet après-midi.
On entre dans une période dangereuse. Enfin, on y est entré, puisqu'on a eu cette tragédie ce matin. Elle l'est, qu'on le veuille ou non, en relation avec ce qui va se passer au Proche-Orient. L'offensive terrestre israélienne va commencer dans les heures ou les jours qui viennent, mais on s'en rapproche de plus en plus. Et donc, on va avoir une tension supplémentaire dans le pays, mais dans d'autres pays européens aussi, parce qu'on n'en parle pas beaucoup des autres pays européens, mais il y a aussi des tensions liées à ce conflit au Proche-Orient, à cette guerre.
En attendant, c'est chez nous que se déroulent les attentats. Et l'attentat d'aujourd'hui, c'est à Arras, en France.
Oui, vous avez raison sur les attentats, vous avez tout à fait raison. Sur les manifs, j'ai vu passer qu'à Vienne, avant-hier, ça avait été extrêmement violent.
On en a interdit beaucoup aussi, parce qu'on a, ce qui montre aussi la crainte d'une partition trop visible.
Juste pour finir, d'un mot, je te laisse la parole, Alexandre. Oui, on entre dans une période dangereuse compte tenu de ce qui va se passer au Proche-Orient, qui ne va pas vraiment se calmer.
Et qui fait que la France est une cible, notamment. Et il y a ce lien qui est fait. Regardez, juste le tweet de Tsahal aujourd'hui, l'armée israélienne, au moment où l'on a appris cet attentat contre un professeur. Il y a des milliers de morts, on ne compare pas, on ne quantifie pas évidemment, mais des milliers de morts en Israël, un mort en France, et l'armée Tsahal, nous nous tenons aux côtés de notre allié et ami la France, victime d'un acte terroriste barbare. La lutte contre le terrorisme et la haine gratuite n'a pas de frontières. Il y a cette association d'idées qui fait que, aussi, la France est une cible aujourd'hui du terrorisme.
Évidemment, et elle est une cible, je l'ai dit, parce qu'elle a un passé colonial et parce qu'elle a accueilli beaucoup de monde sur son territoire. Tous les pays européens sont ciblés, il n'y a pas que la France. Mais nous, de par la géographie, de par l'histoire, de par la faiblesse des politiques qui ont été menées, on est beaucoup plus exposés que les autres. Et on a déjà payé un plus lourd tribut que les autres. On compte plus, hélas, le nombre de morts. Et le Bataclan ressemblait, je l'ai dit dès le départ, on a comparé ce qui se passait en Israël avec la guerre du Kippour. Moi, je crois que ça ressemblait beaucoup plus au 11 septembre ou au Bataclan. Un dernier mot sur l'immigration, parce que j'avais oublié dans ma démonstration la question de l'immigration de travail dont parlait Philippe Guibert. On peut en avoir besoin, mais je trouve que dans le contexte actuel, faire venir des gens au titre des métiers en tension, c'est envoyer un signal qui est désastreux. Je crois qu'on peut augmenter les salaires, faire en sorte que ce soit des immigrés qui sont déjà là de manière légale, qui
prennent ce travail. Que ce soit tu te gouchis.
Oui, mais moi, pour le coup, je ne fais pas partie de la droite, de cette droite-là. Et effectivement, le patronat français a aussi une responsabilité dans cette histoire.
C'est bien
et
de donc, le souligner.
Le signal est vraiment désastreux.
Merci de nous avoir accompagnés. Ça se dispute, c'est terminé. On se retrouvera demain à partir de 21h pour cette émission. Merci à Philippe Guibert et Alexandre Devecchio. Dans un instant, c'est Soir Info sur CNews avec Olivier de Kerenfleck.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.